un événement, un artiste, une personnalité, Cédric accueille pour vous un invité VIP.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission VIP où aujourd'hui nous accueillons Mickaël Langlois. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Alors c'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes maître de conférence à l'université de Strasbourg à la faculté de théologie protestante. En deux mots, vous êtes enseignant chercheur donc à la fac de théologie protestante. Alors déjà, première question, peut-être question, je ne sais pas si elle est bizarre, mais en tout cas, comment est-ce qu'on devient professeur, en tout cas maître de conférence donc dans le cadre de cette faculté de théologie de Strasbourg? Aujourd'hui, vous avez 35 ans, grosso modo.
Ouais.
Voilà. Donc, comment est-ce qu'on devient ? C'est quoi le parcours, en fait ?
Ah ben, le parcours, c'est des études universitaires, bien sûr. C'est soi-même de faire des études, un doctorat. Et puis ensuite, on travaille, on fait de la recherche, on postule. Quand il y a une mise au concours, c'est un poste de fonctionnaire. Après ça, on postule, on est auditionné. Et si on a de la chance, on est pris. Et c'était mon cas. Donc, je suis vraiment content d'être ici à Strasbourg.
D'accord. Et alors, c'est comment qu'on a une vocation, je sais pas, pour devenir d'un coup... Alors, je veux être maître de conférence à la faculté de théologie. Oui. Comment ça se passe ?
C'est pas un rêve de gamin. Pas du tout. Alors, en fait, moi, j'ai fait des études de théologie. D'abord, pour moi, parce que je ressentais un besoin. J'avais des questions. J'avais pas forcément les réponses à ces questions. Je suis issu d'une famille protestante. Et donc, j'allais à l'église. Je discutais avec le pasteur. Et ça suscitait en moi beaucoup de questions. Au début, à la fac, j'avais fait des études plus de maths, physique, informatique. Donc, c'était plutôt mon domaine. Et puis, j'ai bifurqué. J'ai fait de la théologie. Et j'ai fait des études de théologie, j'ai continué en explorant la Bible, le monde de la Bible. J'avais pas l'intention d'aller aussi loin, mais plus j'étudiais, plus ça me donnait envie de continuer. Et puis mes profs m'encourageaient en disant « mais tu sais, il faudrait que tu fasses un doctorat ». Ah bon, d'accord, ok, alors je vais faire un doctorat. Et puis ça s'est fait comme ça. Et je suis vraiment content, mais c'est vrai que c'était pas du tout planifié à l'avance.
Un doctorat qui s'est fait sur Paris, il y a une petite différence par rapport à ce que nous on connaît ici à Strasbourg. Hein.
Oui, alors c'est vrai que techniquement, j'ai pas fait un doctorat en théologie. J'ai fait des études de théologie, mais après les études de théologie, plutôt que de faire un doctorat en théologie, en fait, j'ai refait des études en histoire et en philologie. Donc j'ai étudié l'Orient ancien, les civilisations de l'Orient ancien, pour comprendre le monde de la Bible, pour remettre la Bible dans son contexte. Donc j'ai refait encore licence, master, et c'est à ce moment-là que j'ai fait un doctorat à la Sorbonne, donc à Paris.
D'accord, ouf, ça donne envie. Alors bien sûr, on va creuser tous ces sujets tout à l'heure, parce que là aussi, en introduction, on peut présenter notamment un livre, hein, donc Qumran, les secrets des manuscrits de la mer morte. Donc on en parlera en détail tout à l'heure, mais déjà en deux mots, est-ce qu'on peut présenter ce livre et son sujet ?
Oui, alors c'est un livre qui parle des manuscrits de la mer morte, de Qumran, qui est un site au bord de la mer morte, en Cisjordanie, et où on a retrouvé plus de 900 manuscrits anciens qui datent du tournant de notre ère, de l'époque de Jésus, disons, et qui apportent un éclairage fabuleux sur la Bible, le monde de la Bible, le judaïsme à l'époque, la naissance du christianisme. Et donc, on a fait un ouvrage qui présente toutes ces questions-là avec des textes d'introduction, des belles illustrations. C'est vraiment accessible au grand public. C'est un livre vraiment agréable à lire.
Ouais, donc là, c'est vraiment pour connaître un petit peu cette histoire, et donc on la détaillera tout à l'heure. Donc, pour le grand public, parce que toutes les publications, notamment celles qu'on retrouve sur votre site internet, hein, michaellanglois.fr, eh bien, toutes ne sont pas accessibles au grand public. Parfois, il faut s'accrocher, il faut être connaisseur, forcément.
Oui, c'est vrai. Bah, c'est-à-dire que moi, je suis enseignant-chercheur, donc il y a une partie de mon temps consacrée à l'enseignement, l'autre à la recherche. Et donc, quand on fait de la recherche, on publie les travaux, mais ces publications, elles sont destinées surtout aux collègues, qui sont eux aussi chercheurs, ou aux étudiants en théologie ou en histoire. Et c'est vrai que c'est pas forcément toutes les publications s'adressent pas à un grand public, c'est vrai.
Et très concrètement, s'il faut donner un nombre de pages comme ça qui est écrit par an par justement un maître de conférence à la faculté, peut-être c'est vrai dans d'autres matières également, hein, pas seulement en théologie. Grosso modo, pour vous, combien de pages par an ?
J'ai pas du tout compté, ça c'est une question amusante. Je sais pas, j'ai peut-être oui, plusieurs articles, oh là là, c'est difficile, plusieurs dizaines en tout cas de pages, voire plusieurs centaines, ça dépend. J'essaie de sortir des livres aussi de temps en temps. Donc là, ça fait un livre, ça fait tout de suite plusieurs centaines de pages, c'est vrai.
D'accord, très bien. Bon, on développera tout ça tout à l'heure, de suite, un petit peu de musique à Mickaël Langlois, donc maître de conférence, on le rappelle, à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, et on vous retrouve dans 5 petites minutes.
Thank you. Lorsque je prends ma guitare, je n'improvise pas pour ma gloire, car je suis ton instrument. Avant accord et maintenant, sans vouloir faire de promotion, tu inspires toutes mes chansons. Car tout seul je ne vaux rien, ma musique n'a pas de lendemain. Amoureux de mon être, amoureux de ma raison, à ce que j'aime paraître, tu es quelqu'un que je ne connais pas. Pourtant quelle tristesse se cache tout au fond de mon cœur, un grand cri de détresse demandant qui je suis à mon créateur. Bam 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 bam. Lorsque je prends mon piano, n'improvise pas pour mon ego, car je suis ton instrument. Accord frappé dès maintenant, sans vouloir faire de promotion, tu inspires toutes mes chansons. Car tout seul je ne vaux rien, ma musique n'a pas de lendemain. Je ne suis pas qu'un dessin, un homme parfait sans défaut, qu'on peut froisser avec les mains, car c'est de la peinture à l'eau. Mais ce que j'ai dans mon cœur, un rêve impossible merveilleux, qui résonne et qui pleure, je suis là pour te rendre heureux. Lorsque j'utilise ma voix, je n'improvise pas pour moi, car je suis ton instrument. Accorde vocale dès maintenant, sans vouloir faire de promotion, tu inspires toutes mes chansons. Car tout seul je ne vaux rien, ma musique n'a pas de lendemain. Découvrez qui je suis, découvrez mon identité, dissimulé dans un monde qui m'a prêté des faux papiers. Yeah. Je suis quelqu'un de merveilleux, pas besoin d'en être orgueilleux, car je n'ai rien eu à faire, façonné par la main de Dieu. Vin, 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 vin. Lorsque je prends mon violon, je n'improvise pas pour mon nom, car je suis ton instrument. Accord frotté dès maintenant, sans vouloir faire de promotion, tu inspires toutes mes chansons. Car tout seul je ne vaux rien, ma musique n'a pas de lendemain. Je ne connais pas un humain qui ne soit pas merveilleux, qui cache derrière ce rideau fait main des tons tels un océan bleu. Essayez d'y plonger la tête, la mer ne montrant pas son fond, mais lorsqu'on y pénètre, nous restons sans voix devant tous ces poissons. Vin, 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 vin. Lorsque je prends ma contrebasse, je n'improvise pas pour la classe, car je suis ton instrument. Accord slapé dès maintenant, sans vouloir faire de promotion, tu inspires toutes mes chansons. Car tout seul je ne vaux rien, ma musique n'a pas de lendemain. Ma musique n'a pas de lendemain. Ma musique n'a pas de lendemain.
Un événement, un artiste, une personnalité. Cédric accueille pour vous un invité VIP.
Voilà, de retour dans cette émission VIP, nous sommes toujours en compagnie de Michael Langlois. Il est maître de conférences, donc enseignant, chercheur à l'Université de Strasbourg, à la faculté de théologie protestante. Alors justement, l'une de vos spécialités, c'est les manuscrits de Qumran. Alors c'est des vieux manuscrits donc, qui datent du début de l'ère. Donc,
oui, c'est ça, il y a 2000 ans.
Voilà, 2000 ans. On peut peut-être d'ailleurs réexpliquer un petit peu l'histoire de ces manuscrits de la mer morte. On a tous entendu une découverte comme ça, 1950 environ, mais on ne sait pas exactement à quoi ça correspond, à quoi ça sert. Et notamment, aujourd'hui, il y a des recherches très fortes hein, sur ces manuscrits-là. Notamment, il y a une recherche internationale qui s'organise et qui se fait, qui centralise un petit peu les connaissances sur ces manuscrits-là. Et vous en faites partie. Il y a un rendez-vous en Norvège, ça m'a bien amusé, donc je le cite au passage, hein, c'est ça ?
Oui, c'est vrai. Au mois d'août, je vais en Norvège. Oui, alors, ils ont été découverts dans les années 50, effectivement, même un peu avant, 1947, on fait les premières découvertes dans des grottes. Et ce sont des manuscrits très anciens. On se rend compte qu'ils datent pour la plupart entre le 2e siècle avant notre ère, le 1er siècle de notre ère. C'est les plus anciens manuscrits de la Bible, notamment, et de loin. Pour vous donner une idée, c'est que la plus ancienne Bible hébraïque complète, elle date grosso modo de l'an 1000 de notre ère. Alors que là, on a des manuscrits qui sont 1000 ans plus anciens.
Donc, c'est-à-dire que la toute dernière version qu'on avait avant ça, c'était des mecs qui avaient recopié la Bible, mais au 10e siècle.
Oui, c'est ça. Donc, les plus anciens manuscrits qu'on avait, c'était des manuscrits qui étaient finalement assez tardifs. Et on se posait la question, on disait, mais finalement, siècle après siècle, les textes sont recopiés, quelles sont les différences? Ah, si seulement on pouvait avoir des manuscrits plus anciens. Alors, on avait quelques manuscrits plus anciens, en grec notamment. Mais là, pour la première fois, on a retrouvé des manuscrits dans la langue d'origine, l'hébreu, et qui sont 1000 ans plus anciens que les plus anciens manuscrits qu'on avait. Donc c'est un vrai bond dans le temps et ça révolutionne complètement l'étude de la Bible et du monde de la Bible. Alors c'est vrai qu'il y a eu une première publication scientifique internationale qui s'est mise sur pied. Ça a pris 60 ans à faire. C'est une entreprise énorme. Et en fait, on arrive au bout de cette entreprise, mais on se rend compte que finalement, les premiers volumes qui étaient parus, en fait, c'était les premiers, c'était les balbutiements. Les connaissances étaient finalement très, très limitées. Et il faut reprendre tout ça. Donc, 60 ans plus tard, on repart dans un grand projet international de publication scientifique de ces textes. Et c'est vrai que j'ai été recruté pour faire partie de cette équipe internationale. On va commencer à travailler au mois d'août dessus.
D'accord. Et justement, en deux mots, il y avait une différence entre ces textes qu'on avait auparavant, donc qui datent de l'an du siècle du 10e siècle, pardon, et ces textes donc qui sont proches de l'ère du Christ, donc qui datent de 1000 ans plus tôt encore, donc l'an 0 environ, un peu plus. Est-ce qu'il y avait des grosses différences? Est-ce qu'on s'est rendu compte, mine de rien, que oui, on avait déformé ces textes si importants?
Alors, je ne sais pas si déformer c'est le bon terme. Oui, il y a des différences, absolument, entre les manuscrits, pas dans tous les manuscrits. Ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est d'une part, c'est de voir qu'il y a des manuscrits qui étaient pratiquement identiques aux textes qu'on connaissait déjà. Donc c'est un premier point, c'est de dire, bon, finalement, en 1000 ans, après 1000 ans de copies, eh bien, finalement, le texte n'a pas trop bougé. Et ça veut dire que les scribes faisaient un bon travail. Mais en même temps, ce n'est pas tous les manuscrits qui correspondent à ce texte-là. Il y a d'autres manuscrits, et c'est marrant parce que dans la même grotte et de la même époque, peut-être copiés par le même scribe ou par des voisins de table, comme ça, qui recopiaient des manuscrits du même livre, de la Bible, mais avec des différences, avec des variantes. Alors, c'est pas que le texte a été déformé, c'est simplement que on était encore à une époque où le texte continuait à être enrichi, à être développé, à être contextualisé. Et ça a été une découverte vraiment intéressante d'avoir ces autres versions, entre guillemets, où on appelle des recensions, du texte biblique. Alors, il n'y a rien qui dénature complètement la foi, ou mais c'est quand même... très intéressant de voir comment le texte biblique finalement se construit avec le temps.
D'accord, on se rend compte aussi peut-être plus que ce texte a traversé les âges.
Oui, c'est ça.
2000 ans d'histoire.
Ça nous rappelle aussi, c'est vrai, ça nous rappelle aussi que la Bible, elle n'est pas apparue du jour au lendemain, elle n'a pas été écrite par une seule personne à un moment donné. En fait, la Bible, c'est un recueil de livres, et ces livres-là, ils ont été écrits sur plusieurs siècles. Et forcément, ils ont traversé les siècles, ils ont été enrichis petit à petit.
Et comment est-ce que c'est possible que ces fameux bouquins, enfin ces manuscrits, ont été conservés pendant 2000 ans, c'est ça? C'est fou.
Bah oui, alors c'est ça le trésor, c'est qu'en fait, ils étaient dans des grottes, et certaines de ces grottes s'étaient effondrées, donc ils étaient protégés de la lumière, de l'humidité, donc ils ont réussi à survivre, parce que la plupart sont sur du cuir ou sur du papyrus, donc ça s'effrite, ça se désagrège avec le temps, et c'est vrai qu'on a très peu de documents aussi anciens de cette région-là, et c'était une découverte fabuleuse, et qui est aujourd'hui sans pareil, c'est vraiment la plus importante découverte archéologique concernant la Bible à ce jour.
D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut conclure? Je ne sais pas s'il y a des grandes lignes justement qui sortent de cette découverte-là, quelques procédés scientifiques qui nous disent « oui, ben ça c'est intéressant » suite à la découverte justement de ces fameux manuscrits de Qumran.
Ben, je pense que ce qui change, le premier intérêt pour ceux qui lisent la Bible déjà, c'est de se rendre compte que le texte biblique, il était encore en train d'évoluer et que ces différents textes qu'on peut mettre parallèles enrichissent et donnent un regard nouveau sur le texte biblique. Et ça, ce serait bien que ça puisse être reflété dans des traductions françaises, pour que que tout le monde, quand on lit sa Bible, qu'on puisse voir que ce texte, il a toute une richesse qui nous échappait jusqu'à présent. Et puis également, l'autre contre-aspect, c'est d'éclairer le premier siècle de notre ère, le judaïsme de l'époque, avant la destruction du temple de Jérusalem. C'est l'époque de Jésus, l'époque des premiers disciples. Donc pour tous les chrétiens, c'est très intéressant parce que ça permet de comprendre certaines choses que Jésus a pu dire et qui pouvaient, on a l'impression que ça sortait d'un peu de nulle part, ou quand on lit les épîtres, ou en fait on se rend compte maintenant mais qu'il y avait des choses qui étaient bien connues, que d'autres personnes le disaient déjà à l'époque, que dans certains milieux juifs on était d'accord avec ça, ou alors qu'au contraire il y avait d'autres milieux juifs qui étaient complètement en désaccord. Donc en fait ça replace complètement tous ces récits, tous ces discours dans leur contexte historique.
D'accord, oui, on sent qu'on se gratte la tête très fort.
Ouais, ouais.
Mais c'est vrai qu'on replace un petit peu aussi la thématique de la faculté de théologie, donc là c'est protestante pour ce qui vous concerne, mais catholique également. C'est vraiment un travail de scientifique sur ces textes, si je comprends bien.
Ah oui, là il y a un travail d'analyse philologique, c'est-à-dire on étudie, on déchiffre. D'abord il faut déchiffrer les manuscrits, il faut lire l'écriture ancienne, assez souvent malheureusement les manuscrits sont fragmentaires, c'est des petites pièces, des miettes ou des pièces de puzzle, donc il faut reconstituer le puzzle, il faut ensuite essayer de comprendre le sens, il y a du vocabulaire nouveau, qu'est-ce que ces mots-là voulaient dire, c'est des langues anciennes, donc on peut pas simplement aller poser la question à quelqu'un en disant dis-moi, tu peux me dire ce que ça veut dire. Il faut faire son enquête, comparer avec d'autres langues anciennes, apparentées, enfin bref, il y a tout un travail, ne serait-ce que pour établir le texte, l'éditer, le comprendre, le traduire, et ensuite regarder toutes les informations d'un point de vue historique, d'un point de vue de l'histoire des religions, et ensuite évidemment les implications théologiques pour ceux qui s'intéressent à la théologie.
Oui, c'est vrai que c'est fou que 2000 ans plus tard, on n'ait pas encore fait le tour de l'analyse scientifique justement de cette Bible, de tout ça, de son contexte, etc.
Et au contraire, j'ai même l'impression qu'on a encore énormément de travail. Ouais, il y a vraiment beaucoup de travail, les chercheurs ont du boulot.
D'accord. Bon, on reviendra là-dessus tout à l'heure, notamment on pourra se poser la question, est-ce que justement toute cette connaissance justement sur la Bible, les textes et leurs failles aussi, puisque ben, ceux qui connaissent bien les textes de la Bible connaissent des contradictions, mm-hmm. donc apparentes pour certains, des contradictions fondamentales pour d'autres, est-ce que ça empêche la foi, est-ce que ça encourage la foi? Donc on aura votre avis sur la question. De suite, un petit peu de musique et on vous retrouve dans 5 minutes.
Got a quick snap lock on your cold, cold heart. You got your YSL kicks and a red birthmark in the shape of Canada that you try to keep a secret. You got a click clack walk and a cold hard stare. Talk, they'd say they just don't care before they wander off to hide inside their sockets. You've got your scars and you've got your birthmarks. You've got Toronto hiding on your hip, honey. You've got your secrets, you've got your regrets. Birthmarks, you've got to run to hiding on your hip, honey. You've got to
Un événement, un artiste, une personnalité, Cédric accueille pour vous un invité VIP.
Voilà, de retour dans cette émission VIP, nous sommes toujours en compagnie de Mickaël Langlois. Alors précédemment, nous parlions avec vous, hein, vous êtes professeur, enfin pardon, maître de conférence, je confonds les termes, à l'Université de Strasbourg, donc faculté de théologie protestante. Voilà, on y arrive. Et donc, notamment, on a parlé précédemment de Qumran, vous êtes un des spécialistes français de ces textes redécouverts donc au XXe siècle, donc des textes qui datent du premier ère, donc juste après le Christ. Hein, donc on a pu comparer tout ça et vraiment des gros travaux de scientifiques là-dessus. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, on le rappelle, il y a un livre qui est sorti dont vous êtes l'auteur, qui s'appelle Qumran, les secrets des manuscrits de la mer morte. Voilà, donc là, enfin, c'est aussi un livre tout public, hein, où on peut vraiment essayer de se plonger dans cette histoire-là.
Oui, 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 c'est vraiment un livre d'introduction pour ceux qui connaissent rien et qui veulent découvrir ce que ces textes nous apportent.
Oui, donc là, tout à l'heure, d'ailleurs, on reviendra là-dessus, hein, sur les gens, justement, le regain d'intérêt peut-être des gens aujourd'hui pour la question de la Bible, intérêt culturel, intérêt cultuel aussi parfois. Mais alors, revenons-en d'abord un petit peu à votre parcours, puisqu'on lançait une question tout à l'heure. Est-ce que toutes ces connaissances sur les textes bibliques, est-ce que c'est un frein à la foi, à la spiritualité, ou est-ce que c'est un encouragement à la foi, à la spiritualité? Notamment, on peut penser par exemple à une contradiction. J'imagine, si je vous pose la question, y a-t-il des contradictions dans les textes bibliques? La réponse.
Oui, bien sûr, il y a des contradictions. Oui.
Voilà. Est-ce que ces contradictions-là apparentes, on arrive à les résoudre et à avoir une foi, ou est-ce que c'est quelque chose qui empêche la foi? Est-ce que l'intelligence et l'étude, la science empêche la foi dans ce cadre-là?
Alors, est-ce que c'est une question très intéressante, le rapport entre la démarche scientifique et la démarche de foi. On imagine souvent que c'est diamétralement opposé. En fait, c'est pas le cas. Tout va dépendre d'une part de la démarche scientifique qu'on adopte, et d'autre part, tout va dépendre de la nature de la foi. Est-ce que ça entrave la foi de découvrir des textes bibliques qui ont des contradictions entre eux? Si notre foi, c'est de croire que la Bible est parfaite, sans erreur et sans contradiction, alors effectivement, la foi s'effondre. Mais si on croit que la Bible est avant tout là pour, comme un témoignage de ce que des gens ont vécu, de ce qu'ils nous partagent, de leur point de vue à eux, depuis leur contexte, et surtout à des époques différentes, dans des endroits différents, alors et si on replace la Bible dans son contexte, alors les choses se mettent en place et ça apporte un éclairage nouveau. Et moi, mon expérience personnelle, c'est oui, j'ai été secoué dans ma foi quand j'ai commencé mes études de théologie, et puis ensuite quand j'ai commencé à faire des recherches, mon doctorat, et puis après, enfin bref, donc on régulièrement on a des surprises, on est un peu secoué. Moi, d'une part, j'avais eu la chance de faire des études avant de mathématiques, donc j'étais assez rigoureux dans mon raisonnement, donc j'étais bien décidé à ce que ma foi personnelle ou mes convictions personnelles ne viennent pas entraver ma démarche. Je me suis dit, si ce que je découvre remet en question ma foi, ma foi, au moins comme ça, j'en aurai le cœur net. Et puis, j'ai eu la surprise de voir, en fait, que effectivement c'était surtout une façon de faire progresser la foi. Ma foi, elle a changé, c'est sûr, par rapport à peut-être une certaine naïveté quand on est gamin et qu'on va au catéchisme ou qu'on va à l'école du dimanche, ou je sais pas, enfin voilà, on a un enseignement, on raconte des histoires, et puis ensuite on se rend compte qu'il y a toute une complexité derrière, beaucoup plus que ce qu'on imaginait. Donc ça, c'est surprenant, mais ça, tout le monde, enfin, tous ceux qui font des études de théologie, aujourd'hui, mes étudiants, ils passent par là aussi, hein, si vous leur demandez, vous verrez, ils sont souvent un peu secoués quand ils arrivent, mais c'est salutaire, parce que ça permet justement d'aller au fond des choses et de mieux définir sa foi, ça permet de la définir, de la préciser, de l'approfondir, en fait. Moi, aujourd'hui, ma foi, elle est plus profonde que jamais, et elle continue à être enrichie, à être nourrie par le travail scientifique que je fais.
Donc une contradiction dans un texte, on peut peut-être en citer une, je sais pas. Je crois qu'il y a des contradictions notamment dans des chiffres. Enfin, peut être des erreurs de copiste aussi, même.
C'est ça. Alors il y a des contradictions qui sont ultra évidentes sur des nombres, des chiffres, des années. Ça s'est passé telle année, ou alors il y avait un nombre de personnes. Là, il y avait tant de personnes, et dans le texte, on dit non, il y en avait tant. Voilà, ça c'est des contradictions qui sont souvent issues de petites erreurs de scribe, ou alors on a cherché au contraire rétablir une certaine cohérence. Je vous donne un exemple. Récemment, on a vu ça avec mes étudiants. Dans la Genèse au chapitre 5, on donne la liste des patriarches depuis Adam jusqu'à Noé, depuis le premier homme, Adam, et de génération en génération. Et chacun, alors ils vivent des 800 ans, 900 ans, ils vivent hyper vieux. Un tel, à l'âge, il avait tel âge, il avait, je sais pas, genre 150 ans quand il a eu son fils, et puis ensuite il a vécu 700 ans, etc. Et quand on met bout à bout les années, on se rend compte qu'on arrive à des contradictions, et en particulier, on arrive à le fait que certains patriarches, en fait, doivent survivre au déluge. Or, on nous explique, arrivé à Noé, que le déluge arrive et que personne ne survit au déluge, si ce n'est Noé et sa famille. Et en particulier, il n'y a aucun ancêtre de Noé qui est censé survivre au déluge. Donc, il y a des scribes qui ont repéré en disant « Mais là, si on met bout à bout les années, il y a un problème. » Donc, ils ont corrigé, en fait, les années de vie des patriarches pour rétablir certaines cohérences. Donc, voilà, si on a le nez dedans, si on regarde les chiffres, si on fait ce genre de calcul, on se rend compte. Mais en fait, si vous prenez ces textes-là, le but de ces textes, c'est clairement pas de vous donner des généalogies avec des chiffres. Enfin, c'est pas ça l'objet de notre foi. C'est pas de dire, mais finalement, le message, il est théologique. Le message, c'est un message sur ce Dieu qui se révèle à nous, qui se révèle aux hommes. Sur le déluge, c'est le symbole d'un nouveau commencement pour l'humanité. Enfin, vous voyez, si on s'intéresse au message de ces textes, à ce moment-là, ces contradictions, elles perdent de leur importance.
Effectivement, c'est très intéressant de voir ce point de vue-là. Et là, il y a une différence par rapport justement au courant. Il n'y a pas la même sensibilité justement des musulmans par rapport au courant, comme c'est le cas notamment des protestants vis-à-vis du texte biblique. Il y a moins de, entre guillemets, de sainteté accordée au texte en lui-même.
Hein. Alors oui, ça dépend. Ouais, je pense que ça va dépendre des musulmans d'une part et des chrétiens d'autre part. Je pense que des deux côtés, il y a ceux qui ont une approche où ces textes sont considérés comme un héritage, et donc on a cette tradition qui nous a été transmise et qu'on recueille, qu'on reçoit et qu'on développe. Et puis il y a ceux qui ont une vision un peu fondamentaliste, disons, où le livre est sacré, on n'y touche pas. Et c'est vrai que pour un certain nombre de musulmans, on dit, bah voilà, le Coran, il a été révélé, presque dicté à Mahomet, donc l'auteur direct, c'est vraiment Dieu, l'humain n'est qu'un secrétaire, disons, il écrit sous la dictée divine, et donc le texte, il est parfait, infaillible, à la virgule près. Et ça, c'est des approches un peu fondamentalistes, et effectivement, si on a ce type d'approche, et que derrière, on se rend compte qu'il y a des contradictions, alors forcément, ça pose le problème. Si on a une approche où on reconnaît qu'en fait, c'est des textes qui ont été rédigés sur une longue période, qui intègrent des traditions, qui elles-mêmes sont plus anciennes, et qui construisent un discours théologique, bon, bah là, on a beaucoup moins de mal à intégrer les éventuelles contradictions qu'on pourrait trouver.
D'accord, on va s'inscrire à la faculté de théologie, hein, ça continue comme ça, pour
oui,
apprendre tout ça.
Absolument.
Mais c'est vrai que c'est quand même... Enfin, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, des jeunes ne s'intéressent plus particulièrement à ces questions de théologie. On pourrait se dire que bon, c'est un petit peu passé, c'est un petit peu derrière nous. Et pourtant, pour y avoir été il n'y a pas bien longtemps, pour une petite visite, bien, il y a plein de jeunes, effectivement, qui s'intéressent et qui sont inscrits à la faculté de théologie. Donc, d'un côté, ça fait plaisir qu'ils ont encore envie de se poser des questions. Et bon, on va parler peut-être tout à l'heure de tout ça, justement, des petites anecdotes aussi. On veut peut-être avoir une petite anecdote de classe pour voir comment ça se passe à la faculté de théologie protestante, là, pour le coup. Mais de suite, on va envoyer un petit peu de musique. Donc, Michael Langlois, vous qui êtes maître de conférence, on le rappelle, à l'Université de Strasbourg, à la faculté de théologie protestante, on vous retrouve dans 5 minutes. Avant d'envoyer la musique, on peut également citer le livre, et on en parlait précédemment, hein, donc concentré sur les textes de Qumran. Donc, ce livre s'appelle Qumran, les secrets des manuscrits de la mer morte. Donc, sorti en 2010, donc il parle justement de ces fameux manuscrits. Donc, vous êtes l'auteur de ce livre, qui est vraiment un livre tout public. Hein. Donc, là, pour le coup, c'est pas des publications pour les spécialistes. Pour le site internet, par contre, michaellanglois.fr, attention, là, c'est pour les spécialistes, mais pour ceux qui ont envie, effectivement, d'approfondir des sujets, eh bien, on y retrouve vos activités scientifiques et vos publications. Voilà, donc j'ai donné les différentes infos, on se retrouve dans 5 minutes, et là, un petit peu de musique. Don't you count me out, 'cause I'm falling out, 'cause I'm falling down. I have landed down on my knees, oh, down on my knees again. This is where I find the strength to carry on.
Un événement, un artiste, une personnalité. Cédric accueille pour vous un invité VIP.
De retour dans cette émission VIP, nous sommes toujours en compagnie de Michael Langlois. Il est maître de conférence à l'université de Strasbourg, à la faculté de théologie protestante. En deux mots, un enseignant chercheur, notamment sur la question de la Bible. Donc spécialiste de la Bible et du monde de la Bible. Voilà, donc pour continuer, parlons un petit peu des projets. Donc avant de se recentrer justement sur cette casquette d'enseignant chercheur, les projets pour la suite. Si on est enseignant chercheur, c'est quoi notre rêve? C'est de carrière, ça va où? Je sais pas, l'artiste, on voit bien ce qu'il veut faire, mais alors l'enseignant-chercheur qui publie déjà, qui a déjà écrit des bouquins, tout comme vous, c'est quoi l'ambition, les rêves, si on ferme les yeux?
Si je ferme les yeux, c'est difficile de rêver mieux que ce que j'ai actuellement. Moi, je suis au paradis sur Terre, on va dire. Le plaisir d'enseigner et le plaisir, donc ça, c'est de communiquer les connaissances et puis ensuite de faire de la recherche, c'est-à-dire produire des connaissances. Donc c'est fabuleux. On produit des connaissances et ensuite on les transmet. Alors parmi les projets de recherche, je continue beaucoup à travailler sur les manuscrits de la Mer Morte. On le disait tout à l'heure, il y a d'une part un grand projet français, donc de traduction française des manuscrits de la Mer Morte, d'une édition bilingue. Ça s'appelle la Bibliothèque de Qumran, aux éditions du Cerf. Et donc, je co-dirige ce projet. C'est un projet énorme. On a fait 2 volumes, mais il va y avoir une dizaine si on veut tout faire. Ça prendra une dizaine de volumes. Donc, on a beaucoup de travail. Donc ça va encore bien m'occuper pendant pas mal d'années. Il y a ce grand projet international. Vous le disiez tout à l'heure, je vais au mois d'août en Norvège pour rencontrer des collègues du monde entier pour travailler là-dessus. Et puis, il y a des projets d'édition de textes inédits. Là, je ne peux pas trop en parler parce que ce n'est pas encore officiel, mais il y a des inscriptions hébraïques anciennes qui n'ont pas encore été publiées, sur lesquelles je travaille. Et ça devrait sortir, d'ici 2-3 ans peut-être. Mais il y a plusieurs centaines de textes, donc ça va être vraiment passionnant aussi. Et puis... je pourrais lister les projets les uns après les autres, mais c'est des projets fabuleux qui permettent de mieux comprendre la Bible, le monde de la Bible, le Proche-Orient antique, et puis de voir ensuite avoir le plaisir de partager tout ça avec le public, avec les étudiants.
Effectivement, là c'est la casquette de chercheur, mais aussi forcément la casquette d'enseignant qui va avec. En France, c'est le système. Alors justement, comment ça se passe en classe avec donc des étudiants qui sont en faculté de théologie, Oui, alors forcément, parce que il y a des horizons différents. C'est une grande famille, le protestantisme, Donc on a les luthériens, les réformés, puis après les évangéliques, et encore différentes sensibilités au sein de ces évangéliques. Donc on pourrait dire comme ça, en deux mots, que c'est le baptême notamment qui peut séparer l'idée protestante de l'idée protestante évangélique.
Oui, c'est ça. Alors, c'est grosso modo, hein, si on veut simplifier, ce qui sépare les églises protestantes, on va dire historiques, luthériennes, réformées, et puis les églises évangéliques, c'est la question du baptême. Dans le premier cas, on baptise les enfants, puis ensuite, il y a évidemment la confirmation pour confirmer son baptême. Et puis, du côté évangélique, on dit non, nous, on ne baptise que ceux qui le demandent. Donc, à partir d'un certain âge, souvent, c'est 12-13 ans, enfin, disons, quand on commence à être ado et qu'on commence à faire des choix pour sa vie. Donc, c'est un petit peu ce qui sépare les deux. Mais ça se passe très bien à la fac. On a des étudiants de tous les horizons. Et même en cours, on leur donne l'occasion d'en discuter, de débattre. Moi, je fais un cours d'anglais théologie. Donc, il faut que les étudiants s'expriment en anglais. Et donc, c'est pas évident. Alors, en plus, je leur laisse un peu le choix des thèmes. Mais je me souviens, il n'y a pas très longtemps, de deux étudiants qui avaient choisi, justement, de présenter ce débat du baptême. Est-ce qu'on baptise ou non les enfants, ou est-ce qu'on attend qu'ils fassent le choix eux-mêmes? Alors, ils devaient débattre de tout ça en anglais, d'avoir les deux entre eux, présenter les points de vue, invoquer tel ou tel texte biblique pour appuyer son argumentation. Puis ensuite, les autres étudiants dans la classe ont aussi enrichi le débat, posé des questions. C'était vraiment, vraiment sympathique. Et ça se passe bien. Vraiment, dans l'ensemble, l'ambiance est sympathique et on respecte toutes les sensibilités sont les bienvenues.
D'accord. Et puis, il y a aussi une surprise, on en parlait hors antenne tout à l'heure, hein, des étudiants qui arrivent notamment en première année donc de faculté de théologie et qui découvrent la traduction de l'hébreu en français et donc qui peuvent du coup sous-peser la valeur des Bibles et des traductions des Bibles qu'on a aujourd'hui.
Oui, absolument. Alors, c'est vrai qu'ils arrivent, on leur fait tout de suite étudier le grec, l'hébreu, c'est des langues anciennes.
Ça commence bien.
Alors, pour beaucoup, c'est un peu la douche froide parce que peut-être ils s'imaginaient que la fac de théologie, ça allait être cool. Mais en fait, non, il y a du travail, évidemment. Alors, certains se débrouillent très bien parce qu'ils aiment bien les langues. Pour d'autres, c'est un peu plus difficile. Mais surtout, ce qui est vraiment bien, c'est que très vite, au bout d'un an, dès qu'ils passent en deuxième année, on leur fait traduire des passages de la Bible. Moi, je fais le cours d'hébreu, donc on leur fait traduire des passages de l'Ancien Testament. Ils les traduisent en français. Ils peuvent comparer avec les traductions existantes, qui sont souvent de qualité, mais c'est pas rare qu'on les prenne en défaut en disant tiens, mais finalement, mais telle traduction, elle s'est pas rendue compte qu'il y avait telle ou telle subtilité dans le texte hébreu, tout ça. Donc, ils sont surpris, parfois déstabilisés en disant mais moi, c'est cette Bible que je lis depuis mon enfance, que j'ai toujours lue et je pensais qu'elle était parfaite. Alors, déjà, c'est de se rendre compte qu'il n'y a aucune traduction de la Bible qui est parfaite. Il y a un dicton qui dit traduire, c'est trahir. Et c'est vrai, toute traduction est une trahison parce qu'on peut jamais restituer pleinement le sens du texte original. Et en même temps, donc ça leur fait un peu peur. Et en même temps, ils réalisent l'importance d'étudier soi-même quand on fait de la théologie, d'étudier soi-même le grec, l'hébreu, pour pouvoir être à même de lire le texte original, de le traduire et de mesurer l'ampleur, les finesses, les subtilités qu'on a dans le texte.
C'est vrai que pour illustrer ça, quelqu'un avait déjà expliqué ici que, par exemple, le mot neige peut être traduit en je ne sais pas combien de versions dans le langage des personnes qui habitent le Groenland. Voilà, donc eux, forcément, pour neige, ils ont 15 000 mots, quoi. Donc forcément, quels mots, quand eux, ils vont dire tel et tel terme technique, bah, nous, on va mettre neige, et du coup, la traduction, là, pour le coup, aura faussé le sens, pour illustrer un petit peu l'idée. Alors, justement, est-ce qu'il y a aujourd'hui, parce que, donc, on le disait, hein, les Bibles, d'une manière générale, c'est des traductions sérieuses, donc même s'il y a des optiques parfois différentes, on y retrouve quand même un travail scientifique derrière. Est-ce qu'il y a des Bibles, on pense notamment aux versions des Témoins de Jéhovah, donc qui ressemblent aux Bibles classiques, mais il y a des choses qui changent. Est-ce que ça a de la valeur, ou est-ce que très concrètement, scientifiquement, on peut dire non, arrêtez, là, clairement, ça n'a pas de sens, vos traductions sur certains passages.
Oui, alors la Bible des Témoins de Jéhovah, elle est vraiment problématique. D'abord, elle n'a pas été faite directement à partir des textes originaux, elle a été faite à partir de l'anglais. Donc déjà, c'est déjà problématique, c'est une traduction de traduction. Alors c'est vrai qu'ils l'ont corrigée récemment, ils ont fait intervenir des gens qui, en principe, connaissent un peu l'hébreu, le grec, qui se sont assurés, soi-disant, qu'elle était sérieuse. Mais encore à l'heure actuelle, il y a des textes où il y a des versets où on invente des mots qui ne sont pas dans le texte original. Dans le Nouveau Testament, vous allez trouver des mentions de Jéhovah, par exemple, puisque les Témoins de Jéhovah insistent sur le ils veulent absolument appeler Dieu Jéhovah. Et donc, ils vont introduire des versets où on va trouver une mention de Jéhovah dans le Nouveau Testament, alors qu'il n'y a aucun manuscrit du Nouveau Testament qui a le mot Jéhovah, par exemple.
Et quand ils sont face à ces contradictions, enfin, parce qu'on a tous eu un témoin de Jéhovah qui a sonné à notre porte, hein, avec tout le respect qu'on peut leur porter, il n'y a pas de critique qui se cache là derrière, mais quand même, il y a des contradictions apparentes scientifiques, hein, sur la traduction de leur texte sur lequel ils se fondent. Et face à ça, est-ce qu'il y a déjà eu des réactions? Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de discuter avec l'un d'entre eux. Est-ce qu'il y a déjà eu des réactions dans ce sens-là?
Moi, je suis comme vous. Moi, c'est arrivé que les témoins de Jéhovah frappent à ma porte. Donc, en général, ils sont assez bien reçus. Enfin, j'ai des amis, hein, des gens en tout cas que je connais assez bien et qui sont témoins de Jéhovah et que j'apprécie et qui, je pense, sont des croyants sincères, mais la plupart ne sont pas du tout des spécialistes et ils dépendent de ça, dépendent du travail que les autres ont fait. Eux, leurs responsables leur disent mais si, cette traduction, elle est de qualité. Et puis, bon, de l'autre côté, les scientifiques comme moi leur disent bah non, désolé, mais d'un point de vue scientifique, là, c'est vraiment problématique. Il y a des raisonnements vraiment fallacieux et ils ne savent pas trop quoi faire. Et alors, soit ils sortent, soit en même temps, ils sont attachés à leur communauté et du coup, bah, ils font abstraction des difficultés que peut contenir leur traduction. Je ne sais pas trop comment ils font, il faudrait leur demander.
Oui, mais c'est vrai que c'est intéressant, notamment sur la question du sang, hein, c'est quand même une question grave aujourd'hui, de la transfusion sanguine.
Oui, bien sûr.
C'est quand même particulier.
Il y a des questions d'éthique, il y a des questions de société, il y a des positions vraiment fondamentalistes qui sortent le verset hors de son contexte. Et il y a aussi un dicton qui dit un texte hors de son contexte est un prétexte. Et c'est ça le problème, c'est que le texte devient prétexte pour tenir des positions qui sont dangereuses, là, pour le coup.
Effectivement, mais ça fait plaisir d'avoir un scientifique sous la main, spécialiste donc de la Bible et de son contexte, pour nous expliquer tout ça. Donc, Michael Langlois, on vous retrouve dans 5 petites minutes. Pour les petits curieux qui veulent en savoir plus sur vous, on le rappelle, il y a un site internet michaellanglois.fr, donc on y retrouve vos activités scientifiques et vos publications. Pour un livre tout public que vous avez écrit, on peut se référer à Qumran, les secrets des manuscrits de la mer morte. Donc là, c'est justement sur ces fameux manuscrits découverts au XXe siècle qui datent d'il y a 2000 ans, donc juste après l'ère du Christ. Donc des manuscrits qui ont vraiment révélé tout un travail scientifique. Enfin, aujourd'hui, on bosse très fort là-dessus. Vous êtes l'un des spécialistes français. Donc ce livre essaye d'expliquer au grand public tout l'intérêt de tout ça. Allez, musique, et on vous retrouve dans 5 minutes pour conclure cette émission VIP.
Tu es le berger de mon âme, gardien de mes pensées. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Attire-moi plus près de ton cœur, cache-moi dans ton amour. Tu es mon seul abri, mon seul. Cache-moi dans ton amour.
tu es mon seul abri.
Un événement, un artiste, une personnalité, Cédric accueille pour vous un invité VIP.
Voilà, on continue cette émission VIP, nous sommes toujours en compagnie de Mickaël Langlois. Il est maître de conférence, à savoir enseignant, chercheur à l'université de Strasbourg, faculté de théologie protestante. Voilà, donc on a déjà parlé de pas mal de choses dans cette émission, c'était riche, on s'est gratté la tête, donc notamment parler des manuscrits de Qumran, hein, donc vous êtes l'un des spécialistes français. Et donc pour conclure, on va peut-être aller sur le terrain justement du christianisme aujourd'hui, on peut le dire, un regain d'intérêt justement pour cette pensée. Donc un côté culturel et un côté cultuel, donc côté spiritualité et foi. Donc justement, commençons par le côté culturel. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'intéressent aujourd'hui, hein, d'où des publications aussi qui existent, hein, des publications grand public sur la Bible, qu'est-ce que c'est exactement. Donc il y a vraiment un intérêt culturel pour ce bouquin.
Oui, bah, je pense que la Bible, c'est un livre d'abord fabuleux et puis surtout qui fait partie de notre héritage, de notre patrimoine. J'ai collaboré justement à une exposition itinérante qui s'appelle « La Bible, patrimoine culturel de l'humanité », qui est sous le patronage du ministère de la Culture. L'inauguration, c'était à l'UNESCO. Donc, il y a vraiment cet aspect culturel. On est en France et historiquement, la France est un pays qui a ses racines dans le texte biblique. On parle souvent de culture judéo-chrétienne, etc. Enfin, donc, même sur les questions de société, la loi, enfin, qu'on soit croyant ou non, la Bible, elle est importante et on ne peut pas y échapper, on ne peut pas faire l'impasse. Et je pense que de plus en plus, on s'en rend compte aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai des sollicitations, des interviews, des gens qui me demandent de faire des conférences ou même des gens qui viennent étudier la théologie chez nous et qui ne sont pas forcément des gens qui sont croyants au sens traditionnel du terme. Simplement, c'est des gens qui veulent en savoir davantage, qui veulent avoir une information à ce sujet. Et je pense qu'ils ont vraiment raison parce que ça explique énormément de choses. Même au niveau de la littérature, au niveau du cinéma, au niveau des arts, comment étudier tous ces domaines-là sans connaître la Bible? Même la langue française, des expressions, à chaque jour suffit sa peine, je sais pas, enfin bref, il y a plein d'expressions courantes en français qui en fait viennent de la Bible. Donc tout ça montre l'intérêt qu'on a pour la Bible, même si on n'est pas soi-même un chrétien au sens traditionnel du terme.
Oui, notamment il y aura une publication dans Science et Vie, hein, donc Science et Vie qui va s'intéresser à la naissance des monothéismes. Donc oui, c'est plus que simplement, hein, oui, on a arrêté de croire à plusieurs dieux, on en a mis un seul à la place. Et...
Oui, absolument. Voilà. Moi, régulièrement, j'ai des interviews dans des publications. Là, effectivement, tout récemment, une interview pour Science et Vie. C'est un numéro à paraître bientôt. Le monde de la Bible également. Bientôt, le monde des religions. Enfin bref, ça répond vraiment à des interrogations, à des questions. Et on a de plus en plus besoin aujourd'hui, en plus, d'avoir une réponse qui soit assez claire, assez accessible et puis équilibrée aussi.
Ouais. Et parlons un petit peu aussi de l'intérêt spirituel justement de ce livre, la Bible. Alors justement, est-ce que ça peut aujourd'hui permettre de façonner une identité, une foi, etc. Est-ce qu'on peut encore y trouver des éléments de spiritualité? C'est vrai que le truc à la mode, peut-être, c'est le bouddhisme ou ce genre de spiritualité plus exotique. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, vous, un expert des textes, de tout ce qu'on y retrouve, est-ce qu'on peut y retrouver vraiment une philosophie de vie qui a du sens?
Oui, absolument. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les religions orientales ont le vent en poupe en France. Je pense que c'est surtout parce que les gens associent le christianisme à une religion uniquement de tradition, d'héritage, pas de côté forcément vivant, voire mystique. Enfin, voilà, c'est pour eux, on a le choix soit à une religion qui correspond uniquement à un aspect culturel, et voilà, je suis chrétien parce que ma famille est chrétienne et je suis né comme ça, et donc il n'y a pas plus d'intérêt que ça. Et si on a une soif de spiritualité, alors là, on va se tourner vers d'autres religions, des religions éloignées. Alors ça peut être bon, l'islam qui vient de l'Orient également, mais carrément des religions de l'Orient ancien, d'Extrême-Orient, comme le bouddhisme ou l'hindouisme, etc. Et alors qu'en réalité, la Bible, suscite, elle peut susciter une foi même mystique. Il y a des mystiques dans les 2000 ans de christianisme, il y a eu beaucoup de mystiques, et encore aujourd'hui, il y a des mouvements charismatiques. Donc on peut être chrétien et avoir une foi vivante, une foi présente, une foi qui va bouleverser notre vie, qui va nous donner une direction, une philosophie. On peut s'épanouir et être à la fois au 21e siècle et en même temps être chrétien, et pas simplement que ce soit un héritage ou une tradition, mais que ça devienne quelque chose de vivant et qu'on vit au quotidien.
Et justement, parce que j'ai déjà eu cette question à poser dans une autre émission, je vais avoir bien votre réponse, vous aussi un spécialiste donc des textes bibliques. S'il faut résumer la pensée biblique en quelques mots, en une phrase, est-ce qu'il y a une colonne vertébrale justement dans cette pensée chrétienne? Il faut retenir ça pour vraiment pouvoir déjà resituer le reste.
La Bible, je pense que l'axe central, c'est la relation à Dieu. La Bible, c'est la façon d'être connecté à Dieu.
D'accord. Merci beaucoup pour les différentes réponses. On arrive déjà tout doucement au terme de cette émission en VIP. Alors, on le rappelle, hein, Michael Langlois, donc vous êtes enseignant-chercheur, donc maître de conférence à l'Université de Strasbourg, à la faculté de théologie protestante, originaire de Paris, hein, donc on en parlait précédemment, c'est ça ?
Ouais,
Paris. Bon, personne n'est parfait. On a tous nos problèmes, hein, n'est-ce pas ? Voilà, donc auteur du livre Qumran, le secret des manuscrits de la mer morte, donc livre sorti en 2010. Donc là, c'est vraiment un livre tout public pour connaître un petit peu l'histoire de ces fameux manuscrits qui datent des premiers ères, donc après l'histoire du Christ, et qui ont été découverts seulement justement au milieu du 20e siècle. Donc là, c'est un livre tout public, et d'autres publications sur votre site internet, donc michaellanglois.fr. Donc là, on y retrouve vos activités scientifiques et vos différentes publications. Donc là, effectivement, donc, dans le cadre de votre travail de chercheur, donc c'est quelque chose de plus pointu, effectivement, il faudra s'accrocher un petit peu plus pour le coup. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous et pour toutes ces informations très importantes qu'on a pu avoir aujourd'hui, puis on espère vous retrouver peut-être pour une prochaine émission, parce que je pense que le sujet est très très vaste et on pourrait en discuter très très longtemps.
Mais avec grand plaisir.
Super, merci beaucoup, on termine en musique comme il se doit. Au revoir.
Au revoir.